Donc, ma communication porte sur la femme symboliste, donc une enclave au réel. Cette communication s'intéresse particulièrement aux peintres symbolistes francophones, qui sont des producteurs d'images imaginées dans leur rapport à la femme réelle et à la femme représentée. Évoluant dans le contexte historique et artistique de la fin du XIXe siècle, ces artistes sont influencés par le paradigme dominant de l'époque. Donc la paternité du concept de paradigme revient à l'historien des sciences et épistémologue Thomas Kuhn, lequel propose de considérer que chaque époque de l'histoire produit, par ses pratiques sociales, par son langage, par son expérience du monde, une structure imaginaire qu'il nomme paradigme, structure qui s'impose à tous les domaines de la pensée durant cette époque. Un paradigme est une certaine vision du monde qui sert de cadre de référence, de modèle fédérateur de pensée. Edgar Morin qualifie le paradigme de « zone invisible », définie par la promotion, sélection des concepts maîtres de l'intelligibilité. Le niveau paradigmatique est celui du principe de sélection des idées, intégrées ou rejetées dans les discours et les théories. Trois niveaux sont déterminants dans l'imprinting auquel sont soumis les peintres symbolistes du corpus étudié. Donc, les paradigmes, les doctrines et les stéréotypes, la représentation de la femme relevant des stéréotypes dans le paradigme de l'époque. Les stéréotypes, représentations collectives, imaginaires collectifs, se forment de la façon suivante selon Edgar Morin. Alors, je cite Edgar Morin. La culture, qui est le propre de la société humaine, est organisée, organisatrice, via le véhicule cognitif du langage, à partir du capital cognitif collectif des connaissances acquises, des savoir-faire appris, des expériences vécues, de la mémoire historique, des croyances mythiques d'une société. Ainsi se manifestent représentations collectives, conscience collective, imaginaire collectif. Si la culture contient en elle un savoir collectif accumulé en mémoire sociale, si elle porte en elle des principes, modèles, schèmes de connaissances, si elle génère une vision du monde, si le langage et le mythe sont partie constitutive de la culture, alors, la culture ne comporte pas seulement une dimension cognitive. C'est une machine cognitive dont la praxis est cognitive. Fin de citation. La dialogique culturelle énoncée par Edgar Morin suscite chez l'individu diverses réactions. Notons notamment le scepticisme, attitude reconnue chez les artistes symbolistes, qui apparaît lorsque des idées contraires se combattent et s'entre-annulent pour devenir une contradiction personnelle provoquant une crise spirituelle stimulant la réflexivité, hybridation ou synthèse, créatrice entre des idées contraires. L'auteur conclut que, de toute façon, la rencontre des idées antagonistes crée une zone turbulente qui opère une brèche dans le déterminisme culturel. Elle peut susciter, chez des individus ou des groupes, interrogations, insatisfaction, doutes, mise en question, recherche. Interrogations, insatisfaction, doutes, mise en question et enfin recherche de nouvelles solutions ne sont-ce pas là ce que les symbolistes incarnent? Dans un paradigme dominant qui pourrait être résumé par l'allégorie du progrès, qu'ils s'efforcent de rejeter, allant jusqu'à la nier, les symbolistes cherchent, au-delà du réel, l'idée, avec un grand I. La négation à l'œuvre, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Pierre-Henri Frogne, souligne que la philosophie symboliste adopte cette posture de négation face au monde qui l'entoure et dans lequel elle ne se reconnaît pas. Recherche de nouvelles solutions, à travers l'idée, semble alors la voie que décident d'emprunter les artistes symbolistes. Cette quête de l'idée s'incarne notamment dans diverses représentations picturales. Nous choisissons ici de nous concentrer sur la figure de la femme symboliste déclinée en deux modèles majeurs, donc la femme fatale et la Sainte Trinité. Donc cette dernière expression est empruntée à Bram Destra dans son ouvrage « Les idoles de la perversité ». Précisons d'emblée que la femme symboliste donc, renvoie aux représentations artistiques faites du féminin et non pas à la femme contemporaine des symbolistes, qu'on pourrait aussi appeler du coup femme symboliste. Il voyait des femmes partout. Devenu vocabulaire usuel, le corps de la femme sert pour tout et son contraire. Nature et culture, luxure et chasteté, vérité et mensonge. Voilà ce qu'écrit Mireille Dautin-Orsini à propos des artistes symbolistes. Plus que la femme, c'est tout le féminin, incarné à la fois dans des créatures hybrides, telles la sphinge ou la sirène, que dans des personnages de femmes mythologiques, bibliques, légendaires, voire historiques, avec Cléopâtre et Sappho, qui se développent à l'époque symboliste. Inspiré des pré-raphaélites anglais, le stéréotype de la femme symboliste présente une longue chevelure, souvent rousse, des yeux fixes ou clos, un air languide, mais pas seulement. Les caractéristiques physiques ne sont pas figées. c'est plutôt la conception qu'en font les artistes qui détermine son classement dans les deux catégories précitées, donc la femme fatale et la Sainte Trinité. Attendue, rêvée ou redoutée, la femme hante l'imaginaire symboliste et questionne les artistes sur leur position vis-à-vis de la sexualité et de la masculinité. Comment convient-il donc que je me comporte pour être un homme ? Si l'artiste n'y trouve pas de réponse ou d'indice, il se pourrait que la séduction même de la femme lui paraisse comme une menace, expliquent Michael Gibson et Gilles Néret. Reflétant l'altérité genrée et sexuelle ainsi que son ambiguïté, les artistes nourrissent une misogynie et peut-être bien plus une gynophobie au sens littéral, une peur de la femme. Ainsi, omniprésente chez tous les symbolistes, la femme peut être pur esprit, rosée, rêverie, ou représentée par son seul aspect charnel. La femme symboliste est ainsi imaginaire, imaginée, sans réalité intrinsèque. Elle est un construit de l'esprit masculin. Toutefois, cette figure picturale est-elle productrice ou résultante de l'imaginaire des peintres ? La femme symboliste semble s'ériger en fantasme insaisissable, alternativement conçue comme dominatrice prépondérante, la femme fatale, ou soumise mystérieuse, la Sainte Trinité. La femme symboliste se dérobe, intégralement vêtue du cou jusqu'aux pieds pour cultiver son mystère, ou, à contrario, dénudée et savamment voilée pour mieux donner l'illusion de pouvoir être, précisément, dévoilée. Nous distinguons pour la présente étude deux catégories de féminins selon leur nature, le féminin au réel et le féminin imaginé. Cette dernière catégorie relève de corpus artistiques, picturaux, littéraires, musicaux. Là, ce sera uniquement un corpus pictural, mais on pourrait développer l'étude à d'autres corpus. Et nous nous interrogerons sur la distance effective ou perçue entre la femme réelle et la femme symboliste. Quelles caractéristiques leur sont communes ? Quelles distinctions sont à l'œuvre ? Les femmes symbolistes, la femme symboliste est-elle une réduction, un complément ou une variation de la femme réelle ? Est-elle en deçà, au-delà ou à côté ? La femme symboliste est-elle une enclave au réel ou partage-t-elle des frontières poreuses avec celle-ci ? Le corpus composé du féminin ou réel, des femmes existantes, relève d'une analyse synthétique de la condition féminine à l'époque symboliste et s'appuie sur des textes juridiques, médicaux et religieux. Donc nous verrons ainsi comment se construit un imaginaire du féminin et quelle place le réel occupe-t-il dans la création de cet imaginaire. Donc deux modèles imaginés forment ainsi le cœur de cette communication, donc la femme fatale et la Sainte Trinité. Cette dernière commencera le développement puisqu'elle semble, dans l'expression même, se rapprocher d'un féminin réel et existant. La Sainte Trinité est composée de la mère, la Vierge et la fille. Donc ça, c'est Bram Destra qui le dit. Cette entité féminine ternaire s'axe autour de la notion de virginité, autour de laquelle se déploie la mère, telle la Vierge Marie, et la fille, dont la pureté virginale est l'état originel. Issue, elle aussi, de sources religieuses, littéraires ou historiques, la référence princeps est la Vierge Marie. Fille juive de Judée, épouse de Joseph et mère de Jésus grâce à l'Immaculée Conception de l'Annonciation, Marie est désignée du vocable « la femme » par Jésus et n'est pas nommée. Suivant son fils dans quelques épisodes, notamment apocryphes, elle termine sa vie terrestre par l'Assomption céleste. Objet d'un culte marial dont il serait ici trop long d'exposer les différentes acceptions ou rejets, Marie est une figure prédominante de la religion catholique au XIXe siècle. Après la dévotion au fils, la piété des catholiques se tourne vers la mère. C'est le grand siècle marial. Marie devient le modèle de contemplation et d'union à Dieu, et la virginité devient une alternative à la spiritualité du féminin, telle qu'elle a pu être conçue par les utopistes. La figure de la mère et de la Vierge assure l'immunité contre l'immoralité et incarne l'obéissance. Obéissance, pureté, virginité, ces attributs sont complétés par la passivité, qui porte une valeur qualitative positive dans le regard masculin. La femme doit être passive et réceptive à la parole et au désir de l'homme. La littérature illustre bien le fait que la passivité caractérise les personnages féminins, et dans une moindre mesure, la naïveté et la pureté. Dédiés à l'amour, il arrive que la passion précipite leur chute. Pensons ici à Ophélie d'Hamlet, une tragique noyée maintes fois représentée. L'existence littéraire des personnages féminins est nécessairement liée au masculin, voire trouve sa justification dans cette relation. Donc l'homme reste toujours premier. Puisque la Vierge Marie reste l'un des pivots de la notion de Sainte Trinité, sa passivité pure s'étend à d'autres saintes bibliques. Prenons pour exemple l'œuvre donc Vision d'Alphonse Eusbert, peinte en 1892 et exposée au salon, peinte en 1892 et exposée au salon et l'année suivante au deuxième salon Rose-Croix. Il s'agit d'une vision de Sainte Geneviève, la patronne de Paris. Elle n'est ici pas représentée en protectrice de la ville, celle-ci étant totalement absente de l'œuvre. Le paysage dans lequel s'inscrit la Sainte est une campagne pittoresque à l'aube, au-delà de laquelle une forêt semble se dessiner dans l'ombre. La Sainte est accompagnée par quelques moutons en arrière-plan, et un la regarde tout près d'elle, à sa gauche. La bergère étant par nature une gardienne de troupeaux, l'allégorie de Sainte Geneviève comme gardienne de Paris perdure ici. Représentée dans une posture d'extase, qui signifie étymologiquement « être en dehors de soi-même », Sainte Geneviève est en adoration devant la vision mystique à laquelle elle assiste. Debout, de face, les mains jointes et la tête levée vers le ciel, l'auréole de la Sainte fait écho à l'aube qui se lève en arrière-plan. Son attitude est ici passive et le camaïeu de bleu renvoie directement au culte marial. Depuis le Moyen-Âge, la Vierge Marie est vêtue d'un drapé bleu. Comme Marie, qui est représentée à plusieurs reprises dans l'histoire de l'art dans une attitude extatique, Sainte Geneviève semble être ici une variation du thème. S'inscrivant directement dans la lignée symboliste, cette œuvre représente un état d'âme. Après de nombreux commentaires des contemporains, il est établi que les recherches neurologiques de Jean-Martin Charcot ont inspiré Alphonse Osbert. La rigidité du modèle, l'état extatique ainsi que son regard fixé au ciel renvoient à l'iconographie de l'hystérie largement répandue grâce à des photographies dans la presse contemporaine. Enfin, contemporaine de l'époque. Bien qu'inscrite dans un espace pastoral renvoyant à l'Arcadie et à un temps non situé, l'inspiration de l'artiste montre bien une influence contemporaine pour réactualiser l'allégorie. Donc les femmes en posture d'extase apparaissent ailleurs. La vision après le sermon, ou la lutte de Jacob avec l'ange, de Paul Gauguin, datée de 1888, montre des bretonnes en prière, après un sermon prononcé par le prêtre, qui est visible dans le coin inférieur droit de la toile. Coupé. La vision semble être celle de la bretonne priant à gauche. Les yeux clos, la tête légèrement baissée, elle est concentrée sur sa vision intérieure, projetée dans l'angle supérieur droit du tableau. Ici encore, les femmes sont dévotes, et comparativement plus dévotes, dans un siècle où la désaffection masculine du religieux est notable. Dans la résistance à la déchristianisation, les femmes jouent un rôle prépondérant. Plus proche encore de son époque, prenons pour exemple ce portrait en pied donc de Marguerite Knopf, peint en 1887 par son frère aîné, Fernand Knopf, peintre symboliste belge qui en fait son modèle favori. Le bas de la robe apparaît coupé, évoquant une figure féminine en lévitation, rejoignant les « purs esprits », chers aux symbolistes. Marguerite Knopf s'inscrit dans un décor neutre. Seul un médaillon décoratif apparaît à gauche de la toile, et une porte close surgit derrière elle. Le corps de face, la tête légèrement de côté, Marguerite semble détourner le regard du spectateur, plongé vers un ailleurs. Un ailleurs extatique, en dehors d'elle-même. Sa posture, la main gauche dans le dos, tenant son coude droit, indiquerait presque une gêne ou une timidité subtile. Ganté, gainé, guindé, le corps féminin est enserré jusqu'au cou dans un corset blanc, recouvert d'une longue robe blanche, terminée par des gants beige. Seule la tête de Marguerite apparaît, cheveux attachés sur la nuque, regard détourné et expression fuyante. Si cette fois le modèle est ancré dans son époque, les indices vestimentaires l'indiquent, il y a pourtant parallèlement une inscription dans l'intemporel. L'espace et le temps sont des données qui s'effacent dans les œuvres de Fernand Knopf. Qui plus est, la blancheur de la robe renvoie également au culte marial et à la pureté originelle. La beauté qu'il voit en Marguerite renforce cette idée de muse intemporelle et ainsi éternelle. Marguerite, femme réelle vivant auprès de l'artiste, incarne ici sa vision de la femme, pure, immaculée, secrète, mystérieuse et en quelque sorte inaccessible. Lorsque Marguerite Knopf se marie en 1891, elle semble perdre ses qualités aux yeux de son frère, qui la délaisse en tant que modèle, mais aussi en tant que sœur. Les liens entre eux se distendent, comme si le mariage de Marguerite la replaçait dans le monde réel. Marguerite, jusqu'ici jeune fille, devient femme, et perd ainsi son aura de pureté virginale. Ce que Knopf recherche ne perdure plus, et il se tourne ainsi vers d'autres inspirations et modèles. Inspirée du monde contemporain des symbolistes, bien que tirant son origine de la Vierge Marie, la Sainte Trinité, expression à la résonance religieuse, se trouve être l'incarnation idéalisée de la femme contemporaine aux symbolistes. Une bergère, des bretonnes, la sœur de l'artiste, les sources d'inspiration réelles sont nombreuses. Elle reste cependant idéalisée, puisqu'à la fin du XIXe siècle, les premiers mouvements d'émancipation des femmes se murmurent, et le statut de celles-ci change imperceptiblement. La femme contemporaine des symbolistes ne sera plus la fille, la sœur, l'épouse ou la mère passive, faible et silencieuse qu'elle a pu être. Qu'en est-il ainsi de la femme fatale ? est-elle la facette cachée de la Sainte Trinité ? Robert Delevoye explique que le mythe central de l'œuvre est d'origine ésotérique. Il est celui de la femme fatale, le symbole inventé par Baudelaire, mis en spectacle visuel par Gustave Moreau, et qui allait, pour la génération dite symboliste, devenir l'instrument de l'idéalisme le plus poussé. Pierre Lemathieu précise que ces deux figures mythiques vont incarner cette conception. Donc le sphinx, ou plutôt la sphinge, dévoreuse d'hommes, et Salomé, la jeune princesse qui dansa si bien devant Hérode. Les œuvres dépeignant l'une et l'autre sont en effet légion au XIXe siècle. Cependant, la figure de la femme fatale ne trouve pas sa source uniquement en ces deux modèles. Ève, première femme de l'humanité, incarne la faute originelle. Elle est, dans l'épisode de la tentation, à la fois passive et active, se laissant tenter par le serpent et tentant Adam, provoquant ainsi la chute due au péché originel. Ève rappelle que la femme peut être bourreau et victime. La ligne est ainsi franchie. La femme est maléfique et Ève le rappelle au tout premier temps des hommes. Si le thème biblique de la chute n'est pas vraiment représenté, il n'en reste pas moins que la femme maléfique, devenue femme fatale, en est l'un des thèmes le plus représentés, décliné en une pluralité de figures, de Dalila à Hélène de Troie, avec donc en figure de proue la Sphinge et Salomé. Alors, cette œuvre, étudiée à de nombreuses reprises, c'est Œdipe et le Sphinx de Gustave Moreau, qui a été exposée au Salon en 1864, actualise le thème de cette rencontre mythique. Ici, la Sphinge dévoile une poitrine féminine et un visage figé, scrutant Œdipe. Parée de bijoux, la figure renvoie aux femmes de l'époque symboliste, donc aux femmes réelles, souvent qualifiées d'artificielles pour leur goût prononcé pour les ornements. Si l'affrontement est intellectuel, donc Œdipe doit triompher de l'énigme du sphinx pour sauver Thèbes, il peut tout aussi bien être à tendance matérielle si le féminin est conçu comme une allégorie de l'essor industriel de l'époque et Œdipe comme un poète symboliste refusant donc ce matérialisme. Ainsi, le spirituel triomphe du charnel, puisque c'est Œdipe qui triomphe du sphinx, et l'idée triomphe du matériel. Donc l'apparition du même artiste, datée de 1876, peut être lue un peu dans la même optique. Symbole de la spiritualité décapitée par la corporéité nue de Salomé dansant, la tête de Saint Jean-Baptiste apparaît pour hanter la danseuse. Cet épisode n'existe pas dans les évangiles. Donc la mention qui est faite à Salomé, qui est nommée fille d'Hérodiade, n'étant que succincte, il est un produit de l'imaginaire de Gustave Moreau, évoquant ainsi les conséquences de la danse. Dans la pièce de théâtre Salomé, qu'Oscar Wilde écrit en 1891, la danseuse finit assassinée par les soldats sous l'ordre d'Hérode, mortifiée par la monstruosité révélée de sa belle-fille, qui se réjouit de la mort du prophète. Ici, dans l'œuvre de Moreau, Salomé est poursuivie par la tête du saint qui apparaît. Dans un geste d'effroi, servant de repoussoir, Salomé pointe la tête rayonnante, accusatrice. Dénudée sans se dévoiler complètement, la danseuse supporte de lourds bijoux, ceintures, bracelets, couronnes, qui renvoient une fois encore au goût réputé féminin pour l'ornement. In fine, le spirituel triomphe toujours. Bien entendu, c'est le masculin qui incarne le spirituel, tandis que la chair appartient aux figures féminines. Edward Lucy Smith ajoute à propos des femmes de Moreau, je cite, « Les femmes de Moreau, en revanche, même lorsqu'elles ne sont pas d'actives destructrices telles que Salomé, sont des êtres qu'il serait mal avisé d'offenser. Ces fées, par exemple, ne sont jamais des créatures menues et papillonnantes du début du romantisme, mais des personnages à la fois puissants et sinistres, malgré leur grande beauté. Elles semblent, à l'instar de nombreux autres éléments de son imagerie, participer d'une célébration imaginative et foisonnante de peurs masculines, de la castration et de l'impuissance. » Fin de citation. Dans la société de la fin du XIXe siècle, quelle femme existante menace le plus les hommes d'impuissance que la prostituée ? Détentrice d'une sexualité déviante et maladive, c'est ce qu'on en dit à l'époque, rapprochée de l'hystérie pathologique, la prostituée est porteuse de maladies vénériennes, comme la syphilis. Entre la prostituée et la criminelle, il n'y a qu'un pas, franchi par Cesare Lombroso et Guglielmo Ferrero dans l'ouvrage « La femme criminelle et la prostituée », publié en 1895 et traduit en français l'année suivante. Soumise aux études anthropologiques, anthropométriques et criminologiques, il est établi que la prostituée posséderait des anomalies physiques menant à la dégénérescence, révélatrices de vices et des comportements jugés déviants et qui seraient, qui plus est, héréditaires. Il est ainsi inconcevable que la prostituée se marie et engendre. Il est d'ailleurs constaté que la prostituée est touchée par la stérilité, interprétée comme un signe de dégénérescence. Les figures féminines religieuses, littéraires ou historiques, qui sont donc les sources d'inspiration pour la femme fatale, connaissent elles aussi une maternité malheureuse, signe toujours d'une dégénérescence. Elles peuvent être mères de monstres ou d'enfants morts-nés, telle Lilith, ou coupables d'infanticide, telle Médée. La femme fatale peut ainsi être approchée de la femme criminelle et de la prostituée, de par sa sexualité active. C'est une séductrice et une tentatrice, et par sa fatalité dirigée vers un autrui, le plus souvent masculin. Puisqu'enrayer la prostitution semble un objectif utopique, celle-ci est contrôlée sévèrement, du moins dans les maisons de tolérance réglementées, bénéficiant d'un suivi médical. Donc la prostituée, l'hystérique, l'enfant, le fou, le sauvage, en fait, tous ces qualificatifs sont donnés à la femme fatale et sont assimilés du coup à des figures imaginées. Dalila, donc Hélène de Troie, Cléopâtre, Médée, Salomé, la Sphinx, etc., etc. Fatalité, beauté, sexualité, quête de pouvoir sur les hommes, bien entendu, s'entremêlent pour caractériser une figure symboliste au succès retentissant. Donc la problématique, pour conclure, la problématique interrogeait la distance effective ou perçue entre la femme réelle et la femme symboliste. Apparue dans un contexte socio-historique spécifique déterminé par un paradigme dominant lié au progrès, les deux figures de la femme fatale et de la Sainte Trinité sont issues de l'imaginaire masculin symboliste. Cependant, cet imaginaire masculin est la résultante d'un imaginaire collectif formé de plusieurs facteurs contextuels, notamment historiques et politiques, qui contribuent au développement d'un climat pessimiste. Notons pour exemple l'espoir déçu d'une démocratie accrue lors de la Révolution de 1848 ou la défaite de la guerre franco-prussienne en 1870. Les idées et théories sur l'évolution de l'espèce humaine, interprétées comme dégénérescence annoncée, et les progrès scientifiques et techniques de la révolution industrielle, dont ils craignent que la primauté soit accordée au matériel, au rationnel, aux dépens de l'imaginaire et de l'idéal, participent par ailleurs à ce pessimisme ambiant auquel adhèrent les symbolistes. Pour affronter ces pessimismes dominants, les artistes symbolistes développent un idéal, s'appuyant notamment sur le féminin. La Sainte Trinité présente cette facette d'un idéal féminin perdu. Les références aux femmes légendaires, partagées par la Sainte Trinité et la femme fatale, témoignent de l'impossibilité pour les artistes de trouver chez les femmes de leur époque l'idéal tant recherché. Déçus d'une époque ne leur correspondant pas, les artistes symbolistes se tournent ainsi vers des références du passé. Le romantisme, le maniérisme, l'Italie des peintres primitifs, l'exotisme de l'Orient et des territoires éloignés et inexplorés. Les figures féminines d'un autre temps et d'un autre espace peuvent être fantasmées et modelées selon leurs envies ou leurs craintes. Elles sont ainsi révélatrices de la perception que les artistes ont de leur époque et de leur fuite vers l'idéal. Que les hommes usent de cette représentation du féminin n'est guère étonnant, celle-ci étant liée au degré de confiance qu'ils portent à la suprématie masculine. C'est fréquemment lors des périodes de bouleversements d'ordre économique et politique, et c'est le cas à la fin du XIXe siècle, que les femmes revendiquent l'amélioration de leur position sociale, les hommes cherchant alors, tout aussi fréquemment, à les renvoyer au stade primaire de, je cite, « harpie à l'appétit sexuel insatiable », selon l'expression donc de Jane Billinghurst. Ce qui est inconnu, incompris, est le plus fréquemment rejeté. Les femmes devenues revendicatrices deviennent incompréhensibles. L'insécurité des hommes de la fin du XIXe siècle grandit. Les artistes utilisent alors l'art pour véhiculer ces inquiétudes. Ce regard masculin contribue sans doute à rendre compte de l'émergence de la femme symboliste. Les hommes ayant, dans ce monde en évolution, besoin de maîtrise, ils créent une figure qu'ils peuvent contrôler et se perçoivent ainsi toujours maîtres de la situation. Merci.